to say. But now that you have had a few words that were lost have found their way. I love you, adore you.
Il est 8h sur Radio G.
Actualité tout à l'heure avec Orange Monnaie, à partir de 8h10 TU.
RFI.
À Paris, 2h à Washington. Bienvenue sur RFI, il est 6h en temps universel.
Michael Ponge.
Et à la une, Donald Trump isolé, lâché par les siens. Le président américain aurait-il tweeté un peu trop vite en annonçant hier le retrait des soldats américains du nord de la Syrie? Le monde s'inquiète d'une offensive turque contre les Kurdes. Le locataire de la Maison Blanche tente de rattraper le coup et une question se pose. Quid des djihadistes prisonniers aux mains des forces kurdes? On va s'y arrêter dans un instant. Et les hommages ce matin aux victimes de l'attaque terroriste à Paris la semaine dernière contre la police. Cérémonie en présence d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, lui, sera entendu par l'Assemblée nationale. Dans l'actualité aussi, le pouvoir en Équateur qui fuit face à la contestation sociale, la Tunisie, entre attentes et spéculations après les législatives de dimanche. Nous reviendrons aussi sur le débat sur l'immigration hier à l'Assemblée nationale en France, avec peut-être la fin des quotas. L'idée, en tout cas, est avancée. Et puis, Christophe Honoré plaît et aime à vous maintenant de courir vite au cinéma pour son dernier film, Chambre 212. Même ses plus fidèles soutiens ont décidé de le lâcher sur ce coup. Donald Trump n'est-il pas allé un peu vite en besogne hier en annonçant le retrait des troupes américaines postées en Syrie le long de la frontière turque? Un blanc-seing à Ankara pour le lancement d'une offensive contre les forces kurdes qui a fait grincer beaucoup de dents à Washington mais aussi dans de nombreuses chancelleries. Si bien que dans la soirée, on a cru assister à une sorte de rétro-pédalage de la part de Donald Trump. Écoutez.
J'ai dit à la Turquie que s'ils faisaient quelque chose au-delà de ce qui est humain, ils essuieraient les foudres d'une économie complètement dévastée. Mais je vais vous dire une chose, nous avons battu l'État islamique. Nous voulons ramener nos soldats à la maison et j'ai été élu sur cette promesse. Nous n'allons pas rester plus longtemps là-bas. Nous allons surveiller la Turquie et nous espérons qu'eux et d'autres pays, y compris l'Union européenne, feront ce qu'ils ont à faire avec les prisonniers de l'État islamique et leurs familles.
ISIS fighters and families.
Donald Trump qui menace, met en garde pendant que le Pentagone lui précise bien que ce retrait est avant tout un redéploiement et qu'il ne concerne tout au plus qu'une centaine de soldats, mais se pose aussi avec cette annonce la question des prisonniers du groupe État islamique jusque-là aux mains des forces kurdes. Vous l'entendiez dans les mots du président américain, chaque pays doit prendre ses responsabilités. Anand Loer, vous êtes en direct d'Istanbul pour RFI. La France a exhorté hier la Turquie à éviter une initiative qui nuirait à la lutte contre le groupe État islamique. Les inquiétudes, Anne, sont grandes quant au sort de ces prisonniers.
Oui, car s'ils retirent leurs troupes de certaines zones du nord syrien, les États-Unis ne laisseront pas seulement les forces kurdes seules face à l'armée turque. Ils remettront aussi dans les mains de la Turquie le sort des membres du groupe État islamique qui avaient été capturés ces dernières années par les combattants kurdes et qui sont détenus dans des camps et des prisons de fortune. Le nombre de ces détenus, potentiellement plusieurs milliers, dépendra de l'étendue de l'offensive d'Ankara, mais rien n'indique que le pays de Recep Tayyip Erdogan ait un plan pour s'en occuper. Interrogé sur le sujet hier, le président turc n'a pas donné de réponse claire. Il a expliqué avoir demandé à ses équipes de travailler sur la question. Comme devront le faire, a-t-il ajouté, la France et l'Allemagne, qui ont des ressortissants parmi ces détenus djihadistes. Il faudra les arrêter vite, a conclu Tayyip Erdogan, toujours aussi évasif. Alors pour convaincre le président américain Donald Trump de lâcher ses partenaires kurdes, son homologue turc a dû lui faire des promesses qu'il n'a pas forcément les moyens de tenir et qui présentent un risque pour la sécurité de la Turquie, victime ces dernières années d'une vague d'attentats attribués à Daesh. Cela pousse certains observateurs à se demander si Tayyip Erdogan n'a finalement pas obtenu de Washington plus qu'il n'avait souhaité, et d'autres à observer qu'abandonner ainsi les djihadistes étrangers au chef de l'État turc, ce serait lui donner un nouveau moyen de pression face aux Européens.
Anand Lauer en direct d'Istanbul, ce flou qui inquiète, c'est un risque, cette libération des djihadistes qui est à prendre en compte très sérieusement, c'est ce qu'estime là le député français Jean-Luc Reitzer, Les Républicains, il est vice-président du groupe d'études sur les Kurdes à l'Assemblée nationale.
Jusqu'à présent, ils ont assuré effectivement la surveillance de ces djihadistes qui sont des dangers potentiels pour notre sécurité en France, mais aussi pour tout le monde occidental. Et si effectivement les Kurdes libèrent ces terroristes, ils risquent tout simplement de se perdre dans la nature. Et donc on aura un résultat là encore catastrophique. Et donc c'est une situation sur laquelle il faut être extrêmement attentif et il faut que le gouvernement français intervienne rapidement pour faire connaître sa décision et sa volonté de faire en sorte que ces djihadistes ne puissent pas de nouveau être nuisibles pour notre sécurité et pour notre tranquillité publique ainsi que pour nos intérêts.
Des propos recueillis par Anthony Latier, une menace alors que le terrorisme un peu oublié, il faut bien l'avouer, est venu se rappeler aux mauvais souvenirs des Français la semaine dernière. La préfecture de police de Paris jeudi dernier, 4 agents tués par l'un de leurs collègues radicalisés. Et aujourd'hui, ces informations de presse, une clé USB retrouvée au domicile de l'assaillant contenait plusieurs vidéos de propagande du groupe État islamique. Les coordonnées de nombreux collègues ont aussi été découvertes. Que voulait-il en faire? C'est à l'enquête de le déterminer. Y a-t-il eu des failles? À cette question-là, c'est le ministre de l'Intérieur qui devra répondre. Christophe Castaner sera d'ailleurs entendu cet après-midi par la commission des lois de l'Assemblée nationale après un hommage ce matin rendu à la préfecture de police en présence du chef de l'État, une cérémonie que vous suivrez pour nous, Marie Casadebé.
Trois hommes et une femme sont tombés sous les coups de ce fonctionnaire. Un major de police de 50 ans, deux gardiens de la paix, un homme et une femme de 38 et 39 ans et un agent administratif de 37 ans. Un cinquième fonctionnaire, une femme, a été prise pour cible, mais elle a survécu à ses blessures. Ils seront tous décorés de la Légion d'honneur par le ministre de l'Intérieur. Le président de la République rendra ensuite hommage à ses employés d'un des services les plus sensibles du pays, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Sa compétence s'étend à la capitale et sa proche banlieue. Avec son millier de membres, la DRPP travaille sur des questions liées à l'immigration irrégulière, aux mouvances d'ultra-gauche et d'ultra-droite, mais aussi au terrorisme islamiste. L'administration est donc d'autant plus sous le choc de ce drame que son auteur, l'un de ses employés, aurait adhéré à une vision radicale de l'islam et avait des contacts avec la mouvance salafiste, selon le procureur. Ses collègues, hormis des propos vengeurs en 2015, n'ont pourtant signalé aucun comportement suspect. L'employé modèle est donc passé sous les radars d'un service à la pointe du renseignement.
Et d'où l'audition donc de Christophe Castaner aujourd'hui à l'Assemblée, jeudi au Sénat, lui qui promet de resserrer les mailles du filet contre la radicalisation islamiste. Vous écoutez RFI, il est 1h07 à Quito, la capitale équatorienne, désertée par le président Moreno et son gouvernement. Le pouvoir a trouvé refuge dans une autre ville face à l'avancée sur Quito de milliers d'indigènes et de paysans venus se joindre à la contestation contre une hausse des prix du carburant. Sur place, Eric Sanson.
Alors que des camions ont déposé dans le parc de l'Arbolito à Quito des centaines d'indigènes se préparant à manifester, le président Lénine Moreno a décidé de quitter la capitale en avion. Il a transféré le siège du gouvernement à Guayaquil, une ville côtière où les organisations indigènes sont peu présentes. Dans une allocution télévisée, il a indiqué que toutes les mesures économiques seraient maintenues et accusé son prédécesseur Rafael Correa et ses lieutenants.
Ceux qui agissent dans l'unique intention d'attaquer et de nuire sont des individus externes, payés et organisés. Croyez-vous vraiment à une coïncidence lorsque Correa et ses ministres Hernandez et Patiño ont voyagé au même moment il y a quelques semaines au Venezuela? Le satrape de Maduro a activé avec Correa un plan de déstabilisation.
Une rhétorique que son secrétaire particulier, Juan Sebastián Roldán, avait développée quelques heures auparavant, après la multiplication d'actes de pillage dans plusieurs provinces du pays.
Nous n'avons jamais vu avant ce genre d'image, une usine laitière pillée, des manifestants armés de bâtons, détruisant des camions et menaçant des ouvriers. Ce n'est pas une protestation sociale.
La Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur a nié tout lien avec les pillages, mais la situation empire d'heure en heure. Trois champs pétroliers ont été envahis et ont cessé de produire. Les classes ont été supprimées mardi et tous les marchés de Quito seront fermés mercredi et jeudi. Eric Sanson, Quito, RFI.
Une grande manifestation est prévue mercredi à Quito. La contestation sociale en Irak. Le président appelle à cesser l'escalade après une semaine de manifestations et de violences qui ont fait une centaine de morts. Il admet un usage excessif de la force, notamment la nuit dernière dans un quartier de Bagdad, et appelle à un dialogue politique franc et total pour satisfaire les demandes des manifestants. À Hong Kong, là, la chef de l'exécutif Carrie Lam a pris la parole ce matin. Après plus de 3 mois de contestation, elle assure être en mesure de résoudre elle-même la crise sans faire appel, en tout cas pour le moment, à l'aide du gouvernement chinois. Pas de résultat encore des législatives en Tunisie. Ils seront annoncés demain, mercredi. D'après les premières tendances, aucun parti ne serait en mesure de gouverner seul. Et Narda, que les projections placent en tête, ne compterait que 40 à 46 sièges sur les 217 que compte l'Assemblée. Cela présage donc de difficultés à former un gouvernement, notamment avec des partis comme la coalition Al-Karama, arrivée en 3e position directement après le parti de Nabil Karoui, vous savez, le candidat du second tour de la présidentielle. Écoutez à ce sujet le chercheur et auteur tunisien Zine El Abidine Hamda Cherif.
Moi, je crois que le danger qui nous menace est au-delà de ce que nous voyons au niveau comptable. Parce que maintenant, avec l'entrée de la liste d'Al-Karama, qui est un groupement anarcho-fasciste et qui est implanté partout en Tunisie, c'est ça ce que nous montrent les chiffres. C'est que ce n'est pas un parti qui est, par exemple, présent uniquement dans la capitale ou présent dans 2 circonscriptions. Non, ils sont pratiquement dans la moitié des circonscriptions. Et donc là, nous avons un grand danger interne. Or, ce grand danger interne va avoir des répercussions au niveau régional. Ce sont des conséquences collatérales. Parce qu'un gouvernement où il va y avoir des gens qui sont pour les djihadistes avec une connotation régionale, ça veut dire que ça va avoir des conséquences sur la Libye, ça va avoir des conséquences sur l'Algérie, en plus des possibles conséquences négatives que nous allons enregistrer en Tunisie.
Le chercheur tunisien Zine El Abidine Hamda Cherif au micro RFI d'Ouda Ibrahim. Pas de tabou, il faut regarder le sujet en face, ce sujet de l'immigration, disait il y a quelques semaines Emmanuel Macron. Eh bien, pas de tabou hier, a enchaîné Édouard Philippe en ouverture d'un débat sans vote organisé sur le sujet à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement français reprend à son compte une vieille idée de la droite. Pourquoi pas des quotas pour l'immigration professionnelle? C'est une piste parmi d'autres. Le résumé de ces 4h30 de débat avec Julien Chavan et Boris Vichit.
Édouard Philippe est parti d'un constat d'échec.
Depuis 2 ans, nous menons une politique d'immigration, sans coup de menton et sans naïveté. Mais clairement, nous n'avons pas atteint tous nos objectifs.
Édouard Philippe reconnaît ne pas arriver à maîtriser la hausse des demandes d'asile. Il lance donc plusieurs pistes. La mise en place de quotas, la baisse des remboursements de soins médicaux, la refonte des accords européens de Schengen. Dans un hémicycle quasi vide, la droite et l'extrême droite dénoncent un débat pour rien, à l'image de la patronne du Rassemblement National, Marine Le Pen.
Monsieur le Premier ministre, aucune confiance en vous. Et encore moins, si c'est possible, en votre ministre de l'Intérieur pour régler le dramatique problème de l'immigration qui fait tant souffrir nos compatriotes. Ayez le courage, plutôt que d'organiser un petit débat sans vote, d'organiser enfin un grand référendum.
La gauche s'insurge, elle, contre un débat dangereux. Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise.
Vous avez choisi de faire, que vous le vouliez ou non, de nouveau de la figure de l'immigré, celle du bouc émissaire des problèmes du pays.
Un débat sans vote qui aura permis à l'exécutif de ramener le sujet de l'immigration dans l'actualité à quelques mois des municipales.
Ils se disent fatigués, sous-payés, à bout de force. Les personnels soignants des maisons de retraite en France sont en grève ce mardi. Journée de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats. Fleuron de l'aviation militaire française, longtemps invendable, l'Inde réceptionne aujourd'hui le premier des 36 Rafales commandés en septembre 2016 à la France. Enfin, chambre avec vue, vue sur soi, vue sur le couple aussi. Après son plaire, aimer et courir vite, le cinéaste français Christophe Honoré revient sur nos écrans ce mercredi avec Chambre 212, une comédie qui renouvelle avec fantaisie un thème maintes fois représenté au cinéma, l'usure du couple, Sophie Torlotin.
Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale ?
C'est la loi des couples qui dure, personne n'y échappe.
Maria, alias Chiara Mastroianni, quitte le domicile conjugal après que son mari, son amour de jeunesse, campé par le chanteur Benjamin Biolay, a découvert sa liaison adultère avec un étudiant. Mais elle ne part pas loin, elle s'installe dans l'hôtel en face, chambre 212, avec une vue plongeante sur son appartement et son mariage.
Pourquoi avoir réveillé le passé ?
Maria.
Maria reçoit la visite de Richard, son mari, mais c'est lui à 25 ans et il a les traits de Vincent Lacoste. Défilent aussi dans cette chambre 212 ses nombreux amants et puis la professeure de piano de Richard, alias Camille Cotin. Sans oublier un personnage irrésistible, incarnant sa conscience et chantant avec la voix de Charles Aznavour.
Alors qui déjà ? Pierre, le cousin.
Mais qui couche encore avec ses cousins après 14 ans ?
Bah tout le monde, hein.
Christophe Honoré jongle avec grâce avec le vaudeville et le réalisme magique, les effets du cinéma et le dispositif du théâtre. L'ensemble se révèle réjouissant et surprenant, porté par un formidable quatuor d'acteurs, à commencer par Chiara Mastroianni, qui trouve ici un de ses plus beaux rôles.